J'aimerais que nous puissions un peu interagir pour 2 minutes et puis nous allons laisser la place à notre orateur de ce jour. J'ai une question à nous poser et j'ai besoin de 2 personnes pour m'aider à répondre. Et il faut être sincère. Je peux poser la question? Vous êtes sûr? Ok. Depuis que tu as grandi jusqu'au moment où tu es, sois sincère. Quelle est la connaissance qui t'a amené à plus pécher? Quelle est la connaissance? Nous connaissons la connaissance, c'est quoi, n'est-ce pas? Je ne vais pas définir, je ne suis pas les prédicateurs, mais donnez-moi seulement une réponse. Quelle est la connaissance qui t'a permis à plus pécher? Qui est courageux pour me répondre? Oui, maman.
Je peux dire la curiosité.
La curiosité. En quoi? Tu étais curieuse en quoi? C'est ça même la connaissance. Oui, il y a un frère ici. Tu n'as pas répondu. Il y a un frère ici qui veut répondre.
La connaissance de la grâce que nous avons, que j'ai à Jésus-Christ, parfois ça me pousse à pécher.
Sérieux? Ah. Ok, on va pas commenter, c'est sa réponse. Oui, maman, et puis on va finir par là.
Selon moi, c'est l'ignorance de la parole de Dieu.
Ta connaissance dans l'ignorance. Ah, vraiment, aujourd'hui j'ai des réponses. Hein. Bon, je vais te permettre à la dernière personne, s'il vous plaît, la dernière personne, à me répondre. Quelle est la connaissance que tu as eue qui t'a poussé à plus pécher? Soyez sincère.
Bon, pour moi, c'est la connaissance de suivre les œuvres de la chair.
Ah, mon frère, tu amènes encore ça pire. Quelle connaissance? Cette connaissance, c'est ce que je vais demander.
L'impudicité, par exemple.
La connaissance sur l'impudicité.
Oui.
Ok, il a été sincère. Hein? Il n'y a pas de commentaires. Amen. Et aujourd'hui, nous allons apprendre cela aussi sur quelque chose qui est un peu pareil. Alors, sans plus tarder, je vais inviter au devant de nous notre frère Cèdre de passer devant et nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu quand il va passer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ces acclamations, je les reçois. C'est à moi. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Pardon, quelques minutes. Je disais, nous allons acclamer les seigneurs. S'il vous plaît, je vais vous aider. Nous allons tous nous lever. Nous allons tous nous lever. Nous allons célébrer Jésus. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort pour que moi et toi, nous puissions avoir la vie. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois, le seigneur des seigneurs? C'est lui qui était, qui est et qui vient. Le roi de rois. Oh yes. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois encore plus fort? Yes. Oh yes. Éternel notre Dieu, merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole. Oui, Seigneur, nous sommes prêts à écouter ta parole. Fais-nous du bien. Nous sommes venus à toi avec nos fardeaux qui pèsent lourdement. Et nous venons à toi parce que tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai 10 repos. Seigneur, nous sommes dans ta présence pour recevoir notre repos. Ma prière est qu'après ces messages, que plusieurs personnes sortent de ces lieux ayant reçu leur repos. Katika Jina la Jesus Christo. Fais-nous du bien par ta parole. Nous te supplions. Nous avons ainsi prié. Amen. Avant de nous mettre, nous sommes debout. Avant de nous mettre, nous allons lire la parole de Dieu. Avant de nous mettre, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le 3e verset. Check son. Ah, ok. Voilà, Jean chapitre 17, verset 3. Lisons au nom de Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans Non, nous allons lire Osée 4, 6. Ça, c'est un passage que beaucoup d'entre nous peuvent même réciter. Osée 4, 6. Voilà, Osée 4, 6. Lisons au nom de Jésus. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. Amen. Et le dernier passage que nous allons lire se trouve dans Jean 18. Jean chapitre 18, le verset 37. Lisons au nom de Jésus. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu l'es dit, je suis roi. » J'aimerais que nous puissions s'approprier cette réponse de Jésus pendant quelques secondes. Tu peux tourner vers ton voisin et dire, « Je suis roi. » Si tu es une fille, dis, « Je suis reine. » Regardez-les très bien dans les yeux, dis-le, « Je suis roi. » Oh, mais il y a des gens qui ne veulent pas être des rois et des reines ici. Non, est-ce que tu peux dire à ton voisin, « Je suis roi. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu l'es dit, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, parole du Seigneur. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ? Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux m'aider à saluer ton voisin, dis-le, Jésus est bon. Non, c'était un mauvais voisin, il n'a pas souri, il t'a pas souri. Tourne vers un autre voisin, dis-le, Jésus est bon. Alléluia. Alléluia. Voilà, merci beaucoup. Avant que j'entre dans mon message, je dois me présenter. Je réponds au nom de Cèdre Nzanzu Mutundi, roi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis enfant de Dieu et je sers aussi le Seigneur. Amen, amen. Ouais, je pense que c'est ce qui est beaucoup important à présenter maintenant. Autre chose que je peux dire, je tiens à remercier le bureau pastoral pour la marque de confiance et très particulièrement le comité de la jeunesse. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur pour les hommes de Dieu, le bureau pastoral et le comité de la jeunesse, nous pouvons célébrer le Seigneur. Le président Emery n'est pas là, les vice-présidents ne sont pas là, mais merci beaucoup en tout cas pour la marque de confiance. Je crois qu'ils sont en train de nous suivre actuellement. Et j'aimerais que nous puissions acclamer les frères qui m'ont accompagné. Ils peuvent s'élever, nous allons aussi acclamer quand même pour eux. Il y a des frères qui m'ont accompagné. Voilà, nous pouvons acclamer pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur. Voilà. Alors, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Nous sommes là pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à dire à ton voisin, nous sommes là pour parler de Jésus. Nous sommes là pour aiguiser les Jésus-Christ que nous avons reçus en nous. Que nous les reflétons davantage dans la société, que nous les reflétons davantage dans nos familles, que nous les reflétons davantage partout où nous passons. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Et le message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui s'intitule tout simplement « Les trois connaissances dangereuses dans la vie de Jésus ». Mais une short form, c'est là. « Trois connaissances dangereuses ». Tu peux répéter après moi « Trois connaissances dangereuses ». Répète encore après moi « Trois connaissances dangereuses ». Voilà, c'est un message thématique. « Trois connaissances dangereuses dans la vie de Jésus-Christ ». Trois connaissances. Alors, la plupart de ces passages que nous avons lus ici, ce sont des passages où nous avons retrouvé le mot connaissance. Nous avons vu le mot connaissance dans le passage que nous avons lu. Dans Osée 4, 6, on dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a la connaissance. Il y a d'autres passages que nous n'avons pas lus. Jean 8, 32, la Bible dit, ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Connaître, il y a la connaissance. Et dans le passage de Jean 17, que nous avons lu, là aussi, il y a la connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, la connaissance. Alors, lorsqu'on parle de la connaissance en français, en grande partie, nous pouvons rater la quintessence de ce que la parole de Dieu veut nous prêcher, veut nous parler. Parce que vous et moi, nous savons tous, je le crois de tout mon cœur, que nous savons tous que la Bible n'a pas été écrite en français. N'est-ce pas? Vous le savez que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en hébreu et en grec. Et une petite partie en araméen. Alors, lorsqu'on parle de la connaissance en français, ça renvoie à... Voilà, ça cache plusieurs vérités. Ça cache plusieurs vérités. Voilà pourquoi, avant que je puisse entrer dans mon message pour vous parler de trois connaissances dangereuses, je voulais vous donner quatre types de connaissances majeures que nous avons dans la parole de Dieu. Quatre types de connaissances majeures. Il y a plusieurs, surtout du grec, il y a plusieurs types de connaissances dans les grecs. Mais je vais parler de quatre connaissances spéciales pour nous aider à comprendre. Et je vous montrerai, je vais beaucoup plus marteler sur les types de connaissances que nous allons développer cet après-midi. Et le premier mot qui parle de la connaissance en grec, c'est le terme qu'on appelle gnosis. Répétez après moi gnosis. Répète encore très bien gnosis. Gnosis. Gnosis, c'est une connaissance scientifique. Gnosis, c'est une connaissance scientifique. Et gnosis, c'est la connaissance que nous avons lorsque nous lisons ce genre de connaissances que nous apprenons lorsque nous étions chez nous, on ne maîtrisait peut-être pas encore très bien le français. Il n'y avait que le français de la famille, bonjour, papa, maman et tout. Ce n'est que lorsque nous sommes partis à l'école maternelle, il y a des choses qu'on a commencé à nous enseigner. À l'école primaire, il y a des choses qu'on a accélérées. À l'école secondaire, il y a des choses qui ont accéléré. Ces choses-là, c'est la science que nous accumulons. Et cette science-là, c'est ce qu'on appelle la connaissance gnosis. Répète encore après moi la connaissance gnosis. Ça, c'est la connaissance scientifique. Et c'est très important. Deuxième type de connaissance, c'est la connaissance qu'on appelle gnosko. Répète après moi gnosko. Gnosko, c'est la connaissance expérimentale. C'est la connaissance expérimentale. C'est l'expérience que tu as. C'est une connaissance que tu accumules par une expérience. Gnosko, c'est le genre de connaissance que dans la Bible, on a toujours employé lorsqu'on parlait de Adam connu Ève. Ça, c'est l'expérience. C'est ça le gnosko, la connaissance expérimentale. Lorsque la personne qui connaît est aussi connue par la même chose, il qu'on apprend à connaître. Gnosko, c'est la connaissance expérimentale. Tu ne sauras jamais qu'est-ce qu'est la peine si tu n'as jamais expérimenté la peine. Lorsque tu expérimentes la peine, tu as déjà la connaissance que, c'est ça la peine. Lorsque tu dis à un enfant, ne touche pas au feu, tu vas te brûler. C'est simple, mais il faut que l'enfant touche au feu et qu'il se brûle, qu'il ressente la peine, qu'il se dise, il fait chaud. Et lorsque l'enfant va dire c'est chaud, il ne va pas dire sur base des théories, il va dire sur base de l'expérience. Ça, c'est la connaissance qu'on appelle gnosko. C'est la connaissance expérimentale. La troisième catégorie de connaissances, c'est la connaissance eido. Répétez après moi eido. Eido, c'est la connaissance des faits. C'est la connaissance des faits. C'est le type de connaissance où tu sais que tu es garçon. Tu sais que tu es une femme. Tu es un homme ou tu es une femme. C'est la connaissance des faits. Tu comprends déjà que toi-même là, tu es un garçon. Amen, amen. Quand bien même aujourd'hui avec les agendas sataniques, ils veulent tripoter les choses. Mais ce sont des choses, ce sont des faits réels. Amen, amen. La connaissance des faits. La connaissance eido. Le quatrième mot que je voulais partager avec vous aujourd'hui, pour essayer un peu de nous expliquer la connaissance du grec, c'est la connaissance épignosis. Épignosis, c'est la connaissance précise. C'est la connaissance donc précise, avec exactitude. C'est la connaissance avec exactitude. C'est une connaissance avec exactitude, épignosis. Mais de tous ces quatre mots, ou de tous ces quatre types de connaissances, il n'y a qu'un seul mot qui est repris dans presque tous ces passages que nous avons lus. Et c'est la connaissance gnosko. Tu peux répéter après moi gnosko. Et je vous ai dit, la connaissance gnosko, c'est la connaissance expérimentale. Cette connaissance-là que tu acquiers lorsque tu as expérimenté. Amen, amen. Et donc, les trois connaissances dangereuses que je vais parler avec vous aujourd'hui, ce ne sont pas des connaissances tout simplement pour renchérir des informations dans nos têtes. Non. Ce ne sont pas forcément des connaissances des faits. Ce sont des connaissances expérimentales, des choses que nous devons expérimenter. Alléluia. Et ce sont ces choses que nous retrouvons dans les trois connaissances dangereuses dans la vie de Jésus. Parce que moi et vous, la personne que nous aimerons ressembler le plus au monde, c'est Jésus-Christ. Nous, en tant que des chrétiens. Comme Christ est à Christ, c'est ça les chrétiens. Alors, Jésus, il connaissait trois choses. En fait, il avait trois types de connaissances dangereuses que nous aussi, nous devons savoir. Et la première connaissance dangereuse que moi et vous, nous devons connaître, que nous devons expérimenter, c'est la connaissance de Dieu. Tu peux dire après moi la connaissance de Dieu. Tu peux dire avec force la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire dans sa prière sacerdotale. Il dit ceci. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus avait une forte connaissance de son Père. Voilà pourquoi il prie pour ses disciples. Il dit qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Qu'ils aient cette connaissance-là, qu'ils aient cette connaissance expérimentale avec toi. Pas une connaissance qu'ils ont parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, pas cette connaissance qu'ils ont parce que voilà, ils ont étudié dans le cours des religions à l'école, mais une connaissance où ils t'expérimentent de la même façon que moi aussi je t'expérimente. La connaissance de Dieu. Répète après moi la connaissance de Dieu. Et Jésus connaissait Dieu de manière personnelle et expérimentale. Il expérimentait Dieu personnellement. Il n'avait pas besoin de pont. Il les connaissait personnellement. Et il expérimentait Dieu personnellement. C'est le genre de connaissances que Jésus veut que moi et toi nous puissions avoir. Alléluia. Que nous puissions expérimenter Dieu personnellement. Que nous puissions connaître Dieu de manière expérimentale. Lorsque nous écoutons d'autres personnes parler de leur relation avec Dieu, nous avons comme impression que ils savent vraiment mieux que mon Christ. Mais ma prière est qu'en sortant de ces lieux, que quelqu'un retrouve la connaissance personnelle expérimentale avec Dieu au nom de Jésus. Alors, en quoi est-ce que la connaissance de Dieu elle est dangereuse? C'est la question que beaucoup de gens peuvent se poser. Mais ces jeunes hommes veulent tout nous embrayer ici. En quoi est-ce que la connaissance de Dieu est dangereuse? La connaissance de Dieu, elle est dangereuse tout simplement parce que le diable ne veut pas que les gens puissent connaître Dieu. C'est en cela que la connaissance de Dieu, elle est dangereuse. Le diable ne veut pas que les gens puissent connaître Dieu. Voilà pourquoi le diable, il investit beaucoup d'argent. Il sponsorise beaucoup de choses pour dérouter les gens de ne pas voir la connaissance de Dieu. Les choses de Dieu sont bonnes, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui fait que le monde, malgré le fait qu'il y a la présence de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle de Jésus, les gens ne veulent pas se rapprocher de Jésus. Les gens ne veulent pas connaître Dieu. Pourquoi? Vous pensez pourquoi les gens ne veulent pas connaître Dieu? Pourquoi les gens ne veulent pas venir vers le pardon des péchés? Pourquoi les gens ne veulent pas courir vers Jésus qui est leur sauveur? C'est tout simplement parce que le diable, il les barricade, il les empêche, il investit beaucoup d'efforts pour que les gens ne puissent pas connaître Dieu. En fait, s'il laissait que les gens puissent connaître Dieu, il va rater des candidats. Et ma prière est qu'aujourd'hui, le diable va perdre beaucoup de candidats au nom de Jésus. Parce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont les connaître aujourd'hui au nom de Jésus. C'est une connaissance d'ailleurs. Les diables ne veulent pas que les gens puissent connaître Dieu. Ils ne veulent pas que les gens puissent connaître Dieu de manière expérimentale. Parce que si vous connaissez le Seigneur, automatiquement votre nom est inscrit sur la liste de vie éternelle. Mais si vous ne connaissez pas le Seigneur personnellement, même si vous chantez, vous prêchez, vous faites tout ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas la connaissance personnelle de Dieu, vous n'avez pas une relation personnelle avec le Seigneur, vous allez mourir avec le diable. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce qu'il a toujours mis à disponibilité sa parole et sa bonne nouvelle pour nous aider, afin que nous puissions les connaître tel qu'il veut que nous puissions les connaître. Amen, amen. La connaissance, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Et Jésus connaissait son Père. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il parlait avec les disciples, il leur parlait de son Père. D'ailleurs, lorsqu'il veut les enseigner sur la prière, il dit « Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, mon Père. Je fais que ce que je vois mon Père faire. » Il parlait tout le temps de son Père parce qu'il connaissait son Père. Et ma prière est qu'en sortant de ces lieux, tu aies une connaissance de Dieu comme tu l'as jamais eu auparavant au nom de Jésus. Que tu aies une révélation personnelle de la personne de Dieu dans ta vie. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Trop dangereuse. Trop dangereuse. Elle est trop dangereuse. Moi, encore revenir parce que je suis évangéliste. Et j'étudie le christianisme. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit encore ici, mais je vais encore nous rappeler. Vous savez, des fois, lorsque nous prions comme ça, lorsque tu sors ici à l'extérieur, tu vois beaucoup de gens quitter leurs églises locales et tout. Nous avons tendance à penser que les chrétiens sont nombreux dans le monde. Non, nous nous trompons. Nous nous trompons, nous ne sommes pas nombreux dans le monde. Vous pouvez checker même sur vos Google, là-bas, vous allez remarquer que les chrétiens, nous ne sommes même pas la moitié du monde. Actuellement, dans le monde, nous sommes plus de 8 milliards, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Plus de 8 milliards. Mais si vous faites des recherches, vous allez remarquer que les chrétiens, nous ne sommes que 2,6 milliards. Est-ce que c'est même la moitié? Alors imaginez, depuis l'an zéro jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes que 2,6 milliards. Tous les restes là, ce ne sont pas des chrétiens. Et ce qui va vous choquer, c'est que lorsqu'on parle de 2,6, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens des noms. Et pourtant, moi et toi, nous savons très bien que ça n'a rien à voir avec le christianisme. En réalité, ce n'est pas une religion, c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Donc là, vous allez comprendre que nous avons trop peu de chrétiens dans ce monde bien-aimé. Nous avons trop peu de gens qui connaissent le Seigneur. Vous regardez à quel point la connaissance de Dieu est trop dangereuse. Le diable, il empêche les gens de connaître le Seigneur. Voilà pourquoi ma prière, non seulement toi-même tu dois connaître le Seigneur, mais tu vas sortir ici avec la rage de vouloir faire connaître Dieu aux gens qui t'entourent au nom de Jésus. Nous sommes trop peu de chrétiens dans le monde bien-aimé. Trop peu de chrétiens dans le monde. Trop peu de gens connaissent Dieu. Des fois, nous n'évangélisons pas, nous ne parlons pas de Jésus parce que nous prétendons que tout le monde connaît le Seigneur. Nous prétendons que les gens connaissent le Seigneur, tout simplement parce qu'ils nous balancent 2-3 versets. Bien-aimés, non seulement nous devons connaître le Seigneur personnellement, nous devons connaître Dieu personnellement, nous devons faciliter d'autres personnes aussi à connaître le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Très important. La connaissance de Dieu dans la vie de Jésus et dans notre vie. Nous aussi, nous devons connaître personnellement le Seigneur. Je reviendrai dans l'appel au salut. La deuxième connaissance dangereuse que j'ai remarquée dans la vie de Jésus se trouve dans Jean 18, 37. Là, nous allons lire. Là, c'est une conversation entre Jésus et Pilate. Vous savez, Pilate pensait qu'il avait la force de libérer Jésus. Il pensait qu'il avait la force, le pouvoir de libérer Jésus. Il avait un peu de sympathie pour Jésus jusqu'à ce qu'au finish, il comprenne que le cas de Jésus, c'était un cas qui les surpassait. Et là, on venait d'amener Jésus à Pilate et ils étaient en train de s'entretenir. Et dans leur entretien, j'ai beaucoup aimé leur conversation. Jean 18, au verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Pilate pose la question à Jésus, « Tu es donc roi ?»« Tu es donc roi ?» Jésus répondit, il est dit, je suis roi. Tu peux encore répéter, je suis roi ou je suis reine. J'aurais aimé que mon sauveur soit humble, n'est-ce pas? Bon, entre nous, c'est un prisonnier. Toi, tu penses que tu as le pouvoir de le faire relâcher. Et tu le poses la question, tu es roi. J'aurais aimé que Jésus soit humble et dise que, ah, Mouzouango, vraiment, on a. Non, Nico, tout un gars là, voilà. Jésus a dit, s'il est dit, je suis roi. Parce que là, il n'y avait, ce n'était pas une question d'humilité, c'était une question de l'identité, de la connaissance de soi. Amen, amen. La deuxième connaissance dangereuse, c'est la connaissance de soi. Répète après moi la connaissance de soi. Lorsque tu ne connais pas qui tu es, tu t'exposes à beaucoup de problèmes dans ta vie. Lorsque tu ne connais pas qui tu es, bien-aimé, tu t'exposes aux choses abominables dans ta vie.
Et là, il était en train de révéler son identité. Il n'avait pas honte de son identité. Combien de chrétiens tombent tout simplement parce qu'ils remettent en cause leur identité? Et ma prière, qu'en sortant de ces lieux, tu sortes de ces lieux tête haute, ayant restauré ton identité en Christ au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il s'agit d'identité, là, tu n'as pas à négocier. C'est non négociable. Tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Répète après moi, je suis roi ou je suis reine. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, il a dit, je suis roi. La connaissance de soi. La première connaissance dangereuse, c'est la connaissance de Dieu. La deuxième connaissance dangereuse, c'est la connaissance de soi. La connaissance de son identité. Qui es-tu? C'est une très bonne chose de connaître le Seigneur de manière expérimentale. Est-ce que tu te connais de manière expérimentale, les guinosco ici? Est-ce que tu te connais de manière expérimentale? Vous savez, nous, surtout nous les jeunes, nous sommes pressés à vouloir connaître d'autres personnes. Ce qui fait que, voilà, nous avons cette facilité-là de vouloir entrer dans des relations. Nous voulons développer des relations avec des gens. Nous voulons le connaître. Quelle est ta couleur préférée? Patati, patati, c'est là. Est-ce que nous avons déjà pris le temps d'abord de nous connaître nous-mêmes? Nous, est-ce que nous nous connaissons? Il y a un monsieur qui avait dit, tout homme a un prix, il faut connaître son prix pour l'acheter. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Et facilement dans la société, on les achète. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Mais ma prière est que tu sortes de ces lieux et il y a une image de toi, une connaissance de toi qui tire sa source de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus connaissait qui il était. Même s'il était prisonnier, il n'a pas eu honte de dire « Je suis roi ». Combien d'entre nous, lorsque nous nous retrouvons dans des difficultés, nous renions notre identité d'enfant de Dieu? Combien d'entre nous, lorsque nous traversons des moments difficiles de la vie, nous renions notre relation, notre identité d'enfant de Dieu? Mais ma prière, je prie qu'en sortant de ces lieux, que tu aies toujours la tête haute, reconnaissant ton identité d'enfant de Dieu, peu importe les circonstances de la vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux crier « Je suis enfant de Dieu ». Tu peux écrire avec force, je suis enfant de Dieu. La connaissance de soi. La connaissance de soi est dangereuse. Parce que lorsque tu commences à connaître qui tu es, il y a des endroits qui ne vont jamais t'accueillir. Lorsque tu connais qui tu es, il y a des amis qui vont te quitter. Oui? Lorsque tu commences à connaître qui tu es, il y a des endroits qui te fermeront des portes. Parce que ces endroits te diront, tu n'es pas d'ici. Il y a des amis, lorsque tu commences à connaître qui tu es. Ah, batanza ku kimba ce matin à pasta ola nzeka to ambrie. Pardon. Mais lorsque tu ne connais pas qui tu es, tout le temps on va t'inviter dans n'importe quelle fête. Mais lorsque tu commences à connaître qui tu es, pardon, est-ce que tu sumbo aten? Si na besoin to kunicha mbale. Mumu ache konye iko. Vous voyez quel point la connaissance de soi est dangereuse? Parce que la connaissance de soi est dangereuse. Parce que lorsque tu commences à connaître qui tu es, les gens qui profitent de ta naïveté, ils ne vont jamais profiter de ta naïveté au nom de Jésus. Et ici, si dans la connaissance de Dieu, je ne sais pas si je l'ai dit, le plus grand ennemi de la connaissance de Dieu, c'est le diable. Il ne veut pas que les gens puissent connaître Dieu. Mais ici, la connaissance de soi, le plus grand ennemi, ce sont les mauvaises compagnies. Répète après moi les mauvaises compagnies. C'est man à force, les mauvaises compagnies. Paul l'a dit, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Les mauvaises compagnies, c'est souvent les mauvaises compagnies qui ne veulent pas que nous puissions réaliser qui nous sommes réellement. Parce que lorsque tu commences à réaliser qui tu es, ils ne vont jamais profiter de toi. Les mauvaises compagnies profitent de toi parce que tu ne connais pas qui tu es réellement. Mais en sortant de ces lieux, je prie que mon Dieu t'aide à recevoir, à avoir une image claire de la personne que tu es au nom de Jésus. C'est la deuxième connaissance, la connaissance de soi. Et la troisième connaissance dangereuse, pour finir, j'ai remarqué dans la vie de Dieu, c'est la connaissance de sa raison d'être. Tu peux répéter après moi, la connaissance de ma raison d'être. La connaissance de Dieu, la connaissance de soi et la connaissance de ma raison d'être. Pourquoi est-ce que je suis venu sur la terre? Pourquoi est-ce que j'existe? C'est bon de connaître le Seigneur, de connaître Dieu, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Très bon. C'est très bon même de connaître qui tu es. Ok, pourquoi maintenant tu es sur la terre? Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Écoutez, Qu'est-ce que Jésus, toujours dans la conversation de Jésus avec Pilate, il dit ceci. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Écoutez maintenant la suite. Voici pourquoi je suis né. Voici pourquoi je suis né. Est-ce que tu peux toucher ton voisin et dire, est-ce que tu connais pourquoi tu es né? Donc non seulement Jésus avait une connaissance de soi, mais il savait pourquoi il était né. C'était un mauvais voisin, tourne vers l'autre voisin. Asikou répond, Moulis, est-ce que tu connais pourquoi tu es né? C'est Jésus. Jésus, il dit pourquoi il est né. Là, il est devant Pilate. Il dit, voici pourquoi je suis né. Voici pourquoi je suis né. Et voici pourquoi je suis venu dans le monde. Voici pourquoi je suis né. Et voici pourquoi je suis venu dans le monde. Jésus savait sa raison de vivre. Voici pourquoi je suis né. Voici pourquoi je suis venu dans le monde. Ma prière est qu'en sortant de ces lieux, beaucoup de gens, que le Seigneur restaure leur connaissance, leur raison de vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu restaure votre connaissance de votre raison de vivre au nom de Jésus. Que vous ayez aussi cette confidence-là de dire, voici pourquoi je suis né et pourquoi je suis venu dans le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici pourquoi je suis né. Et voici pourquoi je suis venu dans le monde. Pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ça résume la raison de vivre de Jésus ici sur la terre. La raison de vivre. La raison de vivre. Ça, c'est de la vie de Jésus, mais dans notre propre vie. Bien-aimé, après la connaissance de Dieu, la connaissance de soi, nous devons connaître notre raison de vivre. Alléluia. Tu dois connaître pourquoi tu es venu sur la terre. C'est Dr. Miles Monroe qui avait dit, les deux jours importants dans la vie d'une personne, c'est le jour où tu es né et le jour où tu découvres pourquoi tu es né. Ça, c'est Dr. Miles Monroe. Nous, les évangélistes, on a l'habitude de dire, les deux jours importants de ta vie, c'est le jour où tu es né et le jour où tu donnes ta vie à Jésus. Heureusement pour moi, Dr. Miles Monroe, c'était un homme de Dieu. Lui, il avait dit, les deux jours importants, c'est le jour où tu es né et le jour où tu découvres pourquoi tu y es venu sur la terre. C'est très important de connaître pourquoi tu es venu sur la terre. Voilà pourquoi c'est une connaissance dangereuse. Ce n'est pas une connaissance facile. Parce que lorsque tu commences à connaître ta raison de vivre bien-aimé, c'est là que tu commences réellement à vivre. Parce qu'avant que tu ne connaisses ta raison de vivre, tu existes sur la terre. C'est là où moi je peux venir ici, je te dis, allons au nord et tu vas avec moi au nord. Quelqu'un d'autre vient, il te dit, non, non, allons à l'est et tu vas à l'est. Quelqu'un d'autre vient, non, descendons au sud et tu vas au sud. Parce que tu ne connais pas ta raison de vivre, tu vas te laisser balloter par toutes sortes de vents. Mais cela ne sera pas ton histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sortiras de ces lieux ayant reçu la révélation de la raison pour laquelle tu es venu sur la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus connaissait sa raison de vivre. Moi et toi, nous devons aussi connaître notre raison de vivre. Pourquoi est-ce que je suis né? Pourquoi est-ce que je suis venu dans ce monde? Connaissance dangereuse. Jésus dit, pour rendre témoignage à la vérité, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et ici, si à la connaissance de Dieu, le plus grand ennemi, c'est le diable qui fait que les gens ne puissent pas connaître Dieu. Voilà, c'est le diable, le plus grand ennemi dans la connaissance de Dieu, qui empêche les gens de connaître Dieu. Le plus grand ennemi, en termes de connaissance de soi, ce sont les mauvaises compagnies. Mais ici, à la connaissance de sa raison de vivre, le plus grand ennemi, ce sont les gens qui nous aiment. Dis à ton voisin, ce sont les gens qui nous aiment. Le plus grand ennemi de notre raison de vivre, ce sont les gens qui nous aiment. Laisse-moi vous expliquer. Jésus, un jour, il est en train de parler avec ses disciples. Et il va leur poser la question, qu'est-ce qu'on dit de moi dans la société? Qui est-ce que je suis selon les dires des gens? Et on a commencé à lui donner des noms. Voilà, les gens disent que tu es Belzéboul, tu es. Ok, pendant un moment, Jésus a dit, ok, maintenant vous, qui dites-vous de moi que je suis? Ah, vous savez, c'est facile lorsque on vous demande de rapporter ce que d'autres ont dit. Mais lorsque on te demande toi-même, qu'est-ce que toi aussi tu dis? Ah, là, ça devient compliqué. C'était un peu compliqué pour les disciples. Mais parmi eux, il y a un courageux qui a eu l'audace de dire, non, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Voilà, ça a étonné le Seigneur. Il a dit, non, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses. Sinon, mon Père, dans les cieux. Alléluia. C'est Pierre, n'est-ce pas? Et tous, comme nous connaissons l'histoire parmi les apôtres de Jésus, Pierre, c'était quelqu'un qui était prêt à tout pour Jésus, n'est-ce pas? Et c'est quelqu'un par lequel Dieu est passé pour donner l'identité de Jésus. La révélation de qui était réellement Jésus. Et Jésus était émerveillé. Il a dit, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est Pierre. Mais écoutez, quelques temps plus tard, toujours dans le même contexte, Jésus commence à dire à ses disciples, il commence à leur dire, non, je dois aller à Jérusalem, je dois aller mourir là-bas. Il commence à leur partager sa raison de vivre. Il dit, je dois aller à Jérusalem, je dois aller mourir là-bas. La même personne par qui Dieu est passé pour réconforter, pour encourager Jésus, c'est la même personne qui va dire, non, tu ne dois pas aller là-bas, maître. Tu ne dois pas aller à Jérusalem. Non, 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 non. Ça, je ne peux pas accepter, je ne peux pas écouter ça. Tu ne dois pas aller à Jérusalem. Comment est-ce que tu peux aller mourir là-bas? Cette fois-ci, la réaction de Jésus était, les lecteurs de la Bible, qu'est-ce que Jésus avait dit? À haute voix, qu'est-ce que Jésus avait dit? Il n'a pas dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé, mais mon Père. Mais là, il a dit quoi? Et pourquoi il appelle Pierre Satan? Pourquoi il dit, arrête de moi Satan? Parce que Pierre commençait à toucher à sa raison de vivre. C'est là que je vous ai dit, est-ce que Pierre, il était en train d'encourager Jésus à aller faire l'impudicité? Est-ce que Pierre encourageait Jésus à aller voler? Pour que Jésus l'appelle, il dise, arrière de moi Satan. Non! C'est parce que Pierre commençait à toucher à la raison de vivre de Jésus. Et c'est là que je vous ai dit, la plupart d'entre nous, le plus grand ennemi de notre raison de vivre, ce sont les gens qui nous aiment. Ils nous aiment beaucoup qu'ils ne veulent pas que nous puissions aller poursuivre la raison de notre existence. La raison pour laquelle Dieu nous a envoyés. C'est ça. Les gens qui nous aiment, c'est une très bonne chose, mais souvent les gens qui nous aiment. L'autre fois, je parlais avec un ami et je lui disais, qui est ses parents, il y a quelques années en arrière? Son enfant qui m'a dit, moi j'aimerais être photographe. Et son père, il dit, je vais t'encourager mon fils, va étudier même aux États-Unis la photographie. Quels sont ces parents-là qui pouvaient encourager à son enfant? Même jusqu'à aujourd'hui, quels sont ces parents qui peuvent encourager son fils d'aller étudier la musique? La musique ou les histoires des peintres ici. Qui peut encourager son enfant? Tous, nous voulons que nos enfants soient des maîtres avocats, des magistrats, des informaticiens, des ingénieurs, des présidents de la République. Bon, ça, c'est une fonction que tout le monde peut... Vous voyez à quel point beaucoup de gens se sont déroutés de leur réelle raison d'existence? Tout simplement parce que les gens qui les aiment, c'est souvent les gens qui nous aiment qui sont les plus grands ennemis de notre raison de vivre. Mais ma prière est que Dieu t'aide en sortant de ces lieux, en ayant la force que Jésus avait de dire à Pierre, quelqu'un qui l'aimait, et dire arrière de moi Satan. Parce que, une chose que je vais vous dire, la raison de vivre d'une personne, c'est aussi la raison de mourir. Es-tu prêt à mourir pourquoi, bien-aimé? Es-tu prêt à mourir pourquoi? Malheureusement, les jeunes ne comprennent pas les raisons de vivre. Voilà pourquoi ils meurent lorsqu'un garçon l'a refusé. Ils meurent lorsqu'une fille l'a refusé. Ils se pendent. Oh, quelle perte d'énergie, quelle perte de vie. Es-tu prêt à mourir pourquoi? La connaissance de sa raison de vivre. Christ, il est mort parce que sa raison de vivre était sa raison de mourir. Les gens comme les Lumumba, ils sont morts. Parce que leur raison de vivre était leur raison de mourir. Il n'a pas tenu compte de l'âge de ses enfants lorsqu'il était en train de militer pour l'indépendance de la RDC. Il n'a pas tenu compte de leur âge. Il ne s'était pas dit, je dois aussi manger à la dot de ma fille. Non! Sa raison de vivre était sa raison de mourir. Ma prière est que, chers jeunes, que nous sortons de ces lieux, ayant une idée claire de notre raison de vivre. Parce que notre raison de vivre, c'est notre raison de mourir. Alléluia! La connaissance de sa raison de vivre, la connaissance de sa mission. Pourquoi est-ce que tu es né? Pourquoi est-ce que tu es venu dans le monde? La connaissance de Dieu, la connaissance de soi et la connaissance de sa raison de vivre. Là, je suis en train de chiter. De toutes ces trois connaissances dangereuses, il n'y a qu'une seule connaissance qui est source. Les deux autres sont des connaissances qui tirent leur force dans la première connaissance, la connaissance de Dieu. Amen, amen. Tu ne peux jamais te connaître si tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne peux jamais connaître ta raison de vivre si tu es quelqu'un qui n'expérimente. Tu ne connais pas le Seigneur de manière expérimentale. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions. Comment est-ce que je vais connaître qui je suis? Comment est-ce que je vais connaître ma raison de vivre? Bien-aimé, développe ta connaissance de Dieu. Tel il est, tel nous sommes, bien-aimés. Plus tu connais le Seigneur, plus tu vas apprendre à connaître qui tu es. Plus tu développes ta relation intime avec le Seigneur. Tu connais le Seigneur de manière personnelle et vivante. Tu vas connaître pourquoi tu es venu sur la terre. Et c'est là où tout le monde peut dire, si on te tourne dans le est, mais toi tu vas dire, non, moi le Seigneur m'a envoyé d'aller à l'ouest. Même si le volcan, la lave était en train de couler, tu vas dire, j'irai parce que c'est là où Dieu m'a envoyé, bien-aimé. C'est parce que les gens comme Daniel comprenaient, les amis Daniel comprenaient leur raison de vivre, qu'ils étaient prêts à aller même dans la fournaise ardente de feu. Et ils ont dit, nous savons que le Seigneur, notre Dieu, va nous sauver. Et même s'il ne nous sauvait pas, nous n'allons pas nous agenouiller. Parce que c'était des gens qui connaissaient leur raison de vivre. Et ils savaient que la connaissance de leur raison à vivre, c'est aussi la connaissance de leur raison de mourir. Ils étaient prêts à mourir pour leur raison de vivre. Quelle est ta raison de vivre, mon frère, ma soeur? Pourquoi est-ce que tu es né? Tu es prêt à mourir pour quoi? Tu es prêt à mourir pour un homme qui ne va même pas prendre soin de tes enfants? Pour un homme qui va aussi mourir et s'effacer dans l'histoire? Quelle est ta raison de vivre? La connaissance de soi et la connaissance de notre raison de vivre tirent leur source de notre connaissance de Dieu. Répète après moi la connaissance de Dieu. Avec force, la connaissance de Dieu. C'est moi, je dois connaître Dieu. C'est moi, je dois connaître Dieu. Et connaître Dieu, ce n'est pas le jour-là que tu avais donné ta vie à Christ. C'est expérimental. Chaque jour, 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, tu dois connaître le Seigneur. Tu dois développer une relation personnelle et vivante et continuer avec le Seigneur. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Dieu, Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ, il priait tout le temps. Lorsque vous lisez surtout le Nouveau Testament, vous allez remarquer dans la vie, Jésus, c'est quelqu'un qui aimait la prière, c'est quelqu'un qui s'isolait, il aimait tout le temps les retraites. Lui qui était Dieu, pourquoi est-ce qu'il aimait ça? Parce que la communion personnelle avec le Seigneur, continuer avec le Seigneur, nous aide à connaître qui nous sommes et nous aide à connaître notre raison de vivre. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever, nous allons nous lever, nous allons prier. Aujourd'hui, j'ai parlé de trois connaissances dangereuses. La première connaissance dangereuse, c'est la connaissance de à haute voix, la connaissance de la deuxième connaissance, c'est la connaissance de soi. La troisième connaissance dangereuse, c'est la connaissance. Et j'ai dit que les deux connaissances, la connaissance de soi et la connaissance de sa raison de vivre, dépendent de la connaissance. Voilà, alors là, je vais donner l'occasion à une personne. Nos têtes sont baissées dans la présence de Dieu. Je vais donner l'occasion à une personne qui a écouté le message. Et il vient de faire une analyse directe. Il s'est dit, c'est vrai, je fréquente l'église, je suis quelqu'un de l'église et tout, mais j'ai comme l'impression que je ne connais pas le Seigneur. Je n'ai jamais ouvert mon cœur à Jésus. Je sers même le Seigneur. J'ai même déjà évangélisé les gens. Mais toi-même, tu fais une introspection dans ta vie, tu as comme l'impression que tu ne connais pas le Seigneur. J'aimerais te donner l'occasion cet après-midi de ne pas quitter de ces lieux sans pour autant ouvrir ton cœur à Jésus. Amen, amen. Parce que je vous dis, le diable, c'est un grand ennemi de la connaissance de Dieu. Il ne veut pas que les gens puissent connaître Dieu parce qu'il veut qu'ils puissent briller dans la gêne avec tous les gens là. Vous savez, Jésus, lorsqu'un jour il était en train d'interpeller certains serviteurs, il leur a dit, au dernier jour, il y a des gens qui diront, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Et le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Au dernier jour, il leur dirait, je ne vous ai jamais connu. Ginosko, je ne vous ai jamais connu. Des gens qui n'ont pas eu cette connaissance personnelle, expérimentale avec Dieu. Et le débit, parce que c'est un voyage, ce n'est pas de finalité. Ces trois connaissances, ce sont de voyage. Parce que c'est ginosko, expérimental, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Si tu es là, nos têtes sont baissées dans la présence de Dieu. Et tu viens d'écouter ces messages et tu es en train de te dire, j'ai comme l'impression que je n'ai jamais ouvert mon cœur à Jésus. Tu vas lever ta main là où tu es. Tu as dit, j'aimerais ouvrir mon cœur à Jésus. Si tu es là, tu vas lever ta main là où tu es. Je te dis, je viens d'écouter les messages. J'ai besoin aussi d'ouvrir mon cœur à Jésus. Tu vas lever ta main là où tu es. Tu vas lever. Nos têtes sont baissées dans la présence de Dieu. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est là et qui veut ouvrir ton cœur à Jésus, tu vas mettre ta main comme ça. Tu vas lever ta main là où tu es. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur à Jésus. Tu as besoin de connaître le Seigneur. Tu vas lever ta main là où tu es. Yes. Yes.
Tu vas lever ta main, tu vas lever très bien ta main. Le Seigneur est en train de te visiter. Nous allons prier tous ensemble comme une famille. Seigneur Jésus, à haute voix, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis pécheur. Je marchais loin de toi. Mais cet après-midi, je viens d'écouter ta parole. Je viens de comprendre à quel point je t'ai éloigné de toi. Mais tu es en train d'étendre ta main vers moi. Et j'accepte ton offre. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je crois en toi. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Je t'appartiens. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer Dieu pour ce message merveilleux? Mais nous sommes en train d'acclamer comme si on n'est pas motivé. Celui qui est béni va acclamer très fort le Seigneur.